Vous écoutez, on lit pour vous.
La détresse et le désenchantement de l'IA. Un texte de Marie-Hélène Poitras paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir. Le 3 octobre 2024, le bédéiste Jean-Paul Heyde, auteur du magnifique Petit astronaute paru chez à La Pastèque en 2021, a sonné l'alarme et communiqué sur les réseaux sociaux sa consternation face au recours par le Salon du livre de l'Outaouais, SLO, à l'intelligence artificielle, IA, pour une affiche visant à promouvoir la tournée jeunesse Desjardins qui permet aux écoles de recevoir des écrivains. C'est toute la communauté des illustrateurs et illustratrices qui est horrifiée par ce choix, écrivait-il. La situation n'a pas manqué de susciter étonnement et colère de la part d'un organisme visant à célébrer et à honorer les créateurs. On s'attend à mieux. La direction du SLO, dont les affiches ont jusqu'ici toujours mis en lumière les œuvres originales d'illustrateurs et d'illustratrices, a vite réagi. Si la plus récente fait exception, ce n'était pas notre demande, ni une volonté de notre part. Nous avons appris, une semaine plus tard, que la technique utilisée pour l'affiche 2025 a été un mixte d'illustrations qui ont été générées par l'intelligence artificielle, retouchées et adaptées par la graphiste. Solidaire, l'équipe a déclaré que ce type d'outil serait désormais écarté et qu'une ligne directrice claire serait donnée aux fournisseurs externes, graphistes et illustrateurs ou illustratrices. L'équipe du Salon du livre de Montréal, SLM, a elle aussi été interpellée, cette fois par l'illustrateur Pascal Blanchette. Pour savoir si elle a eu recours à l'IA dans l'affiche de l'événement de novembre 2024, au moment où ces lignes étaient écrites, le SLM n'avait pas encore donné sa réponse. On se souviendra également du cas malheureux du roman Elias et Justine, de Samuel Larochelle dont la page couverture a été générée par l'intelligence artificielle, encore une fois dans le contexte d'une chaîne où la provenance des images s'est perdue en chemin. Si j'étais illustratrice, tout ça commencerait à m'angoisser sérieusement. C'est difficile d'arriver avec une position ferme face à l'IA parce que, présentement, on est devant de l'inconnu, constate Pascal Blanchette. Le problème vient des agences de publicité, le pain et le beurre des illustrateurs. Plutôt que d'engager un illustrateur à l'externe, ce qu'elles font habituellement, elles préfèrent mettre l'argent au complet dans leur poche en laissant tomber un maillon de la chaîne. Les équipes des salons ne sont pas au courant ni mal intentionnées. Elles ne savent pas ce qu'elles ont entre les mains, sont plus victimes de la situation qu'autre chose. Ça devient délicat quand on parle d'organismes et d'événements dont l'objectif est de célébrer la culture. L'IA ne crée rien. Elle pompe nos images, déplore l'illustrateur. Cette machine se nourrit de notre travail sans rien nous donner en retour et en nous privant de contrat. Ça n'a pas d'allure. On ne pourra pas y échapper, mais il va falloir qu'il y ait de la réglementation et une rétribution du droit d'auteur auprès des illustrateurs et des artistes. Pascal Blanchet a une signature personnelle très affirmée. On reconnaît ses œuvres à leurs lignes précises et nettes, aux angles avec lesquels il trace les visages, à sa palette de couleurs franches. Il y a dans son travail quelque chose d'intemporel et de presque iconique qui contente l'œil. On lui doit les plus récentes affiches du Festival international de jazz de Montréal, plusieurs livres parus à La Pastèque, le Noël de Marguerite d'India Desjardins, entre autres. Il collabore avec The New Yorker, a remporté de nombreux prix, dont le Bédélice Québec. Pascal est d'avis que les illustrateurs qui ont une facture personnelle distincte risquent de mieux s'en tirer que ceux qui ont un style plus commercial. L'IA est déjà très présente dans la ville, sur les affiches, un peu partout autour de nous. Les images qu'elle génère sont moches, vides et froides, sans l'affect humain pour les animer. Elles ont été générées par une machine et ça paraît. Le dessin a ceci d'intéressant, c'est un geste physique, un travail du corps. Qu'allons-nous faire si, avec le temps, nourris par nos meilleures idées, l'IA s'affine tellement qu'elle arrive à produire une œuvre qui nous procure un réel frisson esthétique? Je pense par exemple à ce concours de nouvelles en Chine, lors duquel un test a été réalisé par un professeur de littérature avec la complicité du président du comité organisateur du concours. Une nouvelle générée par de l'IA, retravaillée ensuite par la main humaine, a été soumise aux membres du jury et a remporté un prix. Le jour où une chanson, une œuvre d'art visuel ou un texte littéraire conçu par une IA parviendra à m'émouvoir, comment réagirai-je? Pascal Blanchette ne craint pas tellement que l'IA nous dépasse, plutôt qu'elle nous tire vers le bas et nous abrutisse. À quel point les images qui nous entourent vont-elles devenir standardisées? Dans quel univers visuel allons-nous vivre? C'est surtout ça qui m'inquiète. Y a-t-il des situations particulières ou des contextes dans lesquels cet illustrateur pourrait envisager d'avoir recours à l'IA? La seule raison qui m'y pousserait, peut-être, serait que j'atteigne mes propres limites du point de vue technique pour dessiner une foule de 250 personnes, par exemple. Qu'est-ce que ça dit sur nous collectivement que, pour économiser de l'argent et gagner du temps, on accepte de ne plus s'exprimer en confiant ça à une machine? Quand on ne crée pas, on ne réfléchit pas. Un savoir-faire va se perdre. On se demande ce qu'on a à y gagner, mais qu'allons-nous perdre? Ça vaut la peine de se pencher là-dessus aussi. Pour ma part, ce que je souhaiterais, c'est d'être informé quand je suis en présence d'œuvres engendrées par de l'IA, un peu comme pour les aliments qui contiennent des OGM ou encore la cigarette. Si on décide d'en consommer, il faut au moins que ce soit en toute connaissance de cause et pouvoir se positionner, décider de le faire ou pas. On pourrait par exemple refuser d'écouter une chanson générée par une machine parce que cela heurte nos valeurs. Une chose est sûre, il faut vite réglementer les usages des illustrations en circulation libre, se doter de balises, de paramètres clairs et d'une manière de rétribuer équitablement les créateurs. Parce qu'en ce moment, on est en plein Far West. C'était « La détresse et le désenchantement de l'IA », un texte de Marie-Hélène Poitras, paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir.
Michel Gadoury, 5 décennies à ouvrir des bars pour la communauté. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 26 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Michel Gadoury a fondé son tout premier bar gay en janvier 1976, le Studio 1, dans le centre-ville. Cela inaugurait toute une période de développement, d'ouverture de clubs ou encore d'achat de bâtiments. On compte sur les doigts des deux mains le nombre de clubs que Michel Gadoury a ouverts au fil des ans. Tout dernièrement, Michel Gadoury a cédé le bar Stud à son gérant de longue date, Mario Goudreau. En passant, le Stud fêtera déjà ses 30 ans en 2025. C'est le dernier bar que Michel Gadoury laisse aller à un membre de son fidèle personnel. Cela boucle la boucle du milieu de la nuit des bars gays dans laquelle il a évolué durant 48 ans maintenant. J'ai décidé de céder le Stud à cause de la maladie, de confier Michel Gadoury. J'ai eu une embolie pulmonaire en janvier 2023 et j'ai beaucoup de difficultés encore à m'en remettre. Cela m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit qu'avant qu'il m'arrive quelque chose d'encore plus grave, c'est mieux de passer le flambeau à mon gérant Mario. C'est un fidèle employé depuis plus ou moins 20 ans. Il a été doorman, puis il est passé à gérant et a acquis l'expérience. Je resterai durant 2 ans en tant que mentor afin de le guider et qu'il soit sur la bonne voie. Le Stud est une vraie institution qui a passé à travers la COVID. Cela a été dur, mais on a réussi. Je n'ai pas d'inquiétude pour l'avenir. Mario Goudreau a évolué à divers postes dans le village, en tant que doorman réputé au Cox Catacombes, au Unity One, et puis comme copropriétaire au dépanneur du village, entre autres. Mario patauge depuis très longtemps lui aussi dans le milieu des bars du village. Je l'ai connu alors que j'étais actionnaire du Unity One à l'époque, se rappelle-t-il. Mario prend possession d'un commerce qui va très bien. Je suis très confiant qu'il va faire grandir le stud encore pour plusieurs années à venir, dit Michel Gadouri, qui a acquis au fil des ans les bâtisses abritant aujourd'hui le Stock Bar et le Unity, ainsi que le stud, bien entendu. Alors qu'à Montréal, on essayait de se dépêtrer de la construction du stade olympique et que celui-ci soit prêt pour les Jeux de juillet de 1976, en janvier de cette année-là, Michel Gadouri ouvrait son tout premier établissement dirigé vers la clientèle gay, soit le Studio 1, à l'angle de Metcalfe et Sainte-Catherine-Ouest. Puis tout un chapelet de clubs commence à prendre forme. Le Réflexion, au coin de Drummond et Sainte-Catherine, le Sécurité Maximum, sur Saint-Hubert, au coin de Sainte-Catherine, le tout premier club Unity, ou Unity One, l'Aigle Noir, le Cocktail, et enfin le Stud. Michel Gadouri participe ainsi, en même temps, à la transition entre l'Ouest et l'Est et l'établissement du village de façon plus permanente dans ce qui était le quartier Saint-Jacques. Ainsi, 5 décennies s'écoulent entre le Studio 1 et le tout dernier né qui est presque un établissement en soi qu'est l'espace Latrium au Stud. Une belle verrière éclairée et lumière naturelle, et de la végétation à profusion. Presque un petit coin tropical au cœur du Stud. L'Atrium est un de mes plus nouveaux projets au Stud et dont je suis très fier. C'est un très beau lieu. Ce projet est tombé en plein milieu de la COVID. Mais on s'en est sorti et je suis très content de voir cet endroit-là aujourd'hui, affirme Michel Gadouri. Il y a quelque temps, on avait aussi introduit une section « Le resto », avec un menu offrant burgers, frites, hot-dogs, sandwiches, etc. On peut donc joindre l'utile à l'agréable, soit regarder de beaux hommes passer, tout en dégustant un délicieux grilled cheese. C'est encore Michel Gadouri qui avait eu l'idée de cet ajout en aménageant une cuisine et en engageant le personnel nécessaire à cette entreprise et relever le défi de créer un restaurant au sein du Stud. Je me souviens de plusieurs qui lui disaient qu'un bar situé au coin de Papineau et Sainte-Catherine ne fonctionnerait pas, qu'il fermerait quelques mois plus tard. Michel Gadouri repoussait, en quelque sorte, les limites du hotspot du secteur en mettant sur pied un club à ce qui était, à cette époque-là, la frontière est du village. Et dire que ce bar célébrera ses 30 ans sous peu. Michel Gadouri aura décidément fait mentir tous ses détracteurs et oiseaux de malheur. Je veux remercier du fond du cœur la fidèle clientèle qui m'a appuyé et suivi depuis 48 ans, lance-t-il. Je ne sais pas comment vraiment les remercier. J'espère que cette clientèle va continuer d'appuyer Mario à présent. Mais j'aimerais également offrir tous mes remerciements aux employés du Stud qui sont là depuis longtemps. Très peu d'entre eux nous ont quittés en raison de la pandémie. Beaucoup nous ont prêté main forte et nous ont permis ainsi de rester ouverts. Je les remercie chaleureusement. Un de mes plus gros souhaits est que l'on puisse créer une maison de retraite pour les hommes gays, un peu comme les résidences Soleil. C'est un de mes souhaits pour que les personnes âgées gays puissent prendre leur retraite dans une certaine quiétude. C'est un grand besoin en ce moment et pour les années à venir. Il n'y a rien en ce sens encore. Pourtant, il faut subvenir aux nombreux besoins de ces gens-là. Comme vous voyez, j'ai encore des idées plein la tête, de souligner Michel Gadouri. Est-ce à dire alors qu'il prend définitivement sa retraite et se la coule douce dans son chalet dans le Nord? Non, pas vraiment. Du moins, pas tout à fait. La communauté gay m'a fait vivre de bons moments et je vais continuer, dans la mesure du possible, d'épauler certains événements de la communauté, dit-il. Et il ne faut pas oublier, comme il l'a souligné plus haut, qu'il serait là encore durant 2 ans pour donner un coup de main à Mario Goudreau au Stud. On souhaite bonne santé et bonne pré-retraite à Michel Gadoury. C'était Michel Gadoury, 5 décennies à ouvrir des bars pour la communauté. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 26 septembre 2024 dans le magazine Fugue.
Petits gestes pour prévenir les dégâts d'eau. Un texte commandité, paru le 28 septembre 2024 dans La Presse. Les statistiques sont claires. Selon Intact Assurance, les dommages causés par l'eau représentent 70 % des sinistres qui se produisent au Québec, avec chaque année un nombre record de réclamations par rapport à l'année précédente. Refoulement d'égouts, bris de tuyaux, infiltration d'eau par le toit ou les fenêtres, débordement d'un cours d'eau à proximité, pluie diluvienne, tempête tropicale. Les scénarios sont multiples et les conséquences bien souvent coûteuses. Heureusement, il existe de nombreuses solutions pour comprendre et atténuer les sources de risque. À cet effet, voici 5 petits gestes, on ne peut plus simples, que vous pouvez poser tout au long de l'année pour mieux protéger votre domicile des dégâts d'eau, petits ou grands. Connaître votre maison. C'est la base. Bien souvent, les gens ne savent même pas ce qu'est un clapet anti-retour et ignorent où se trouve la valve d'alimentation principale en eau parce qu'elle est cachée derrière les boîtes de décoration de Noël, indique Marc-André Gagné, directeur de l'estimation bâtiment à l'indemnisation chez Intact Assurance au Québec. Pour minimiser ou carrément éviter les dommages causés par l'eau, le plus important est en effet de repérer ces emplacements clés. Valves d'alimentation principale en eau, valves extérieures, clapets anti-retour, drain français, chauffe-eau. Bien sûr, il importe aussi de les garder accessibles en tout temps et d'en connaître le fonctionnement en cas d'urgence. Végétalisez votre terrain pour vous adapter au changement climatique. Johanna Ekem, directrice des programmes d'adaptation au changement climatique au Centre Intact d'adaptation au climat, affilié à l'Université de Waterloo, est sans équivoque. On s'attend, au cours des prochaines années, à des épisodes de pluie plus soutenus, donc à des inondations plus fréquentes, même hors des zones typiquement inondables, notamment pendant la saison des ouragans, qui s'allonge et s'intensifie avec le réchauffement des océans. Nous en avons d'ailleurs été témoins cet été avec Beryl et Debbie. Transformer certaines plates-bandes en jardins éponges, convertir les zones pavées en zones végétalisées, corriger le nivellement du terrain pour éloigner l'accumulation d'eau des fondations, voilà quelques-uns des nombreux projets extérieurs qui peuvent pallier cette augmentation des eaux de manière tout à fait naturelle. Faire une ronde d'entretien chaque automne. Qui dit automne, dit retour des périodes de gel et de la vigilance accrue. Les deux spécialistes suggèrent quelques vérifications essentielles qui s'effectuent en 2 temps 3 mouvements et tout à fait gratuitement en amont de cette saison particulièrement susceptible aux dégâts d'eau. Préparer la maison à une absence prolongée. Un voyage est prévu à l'horaire? Avant de partir pour l'aéroport, il est important de suivre ces 2 étapes cruciales à la protection adéquate de la maison. D'abord, fermez la valve d'alimentation principale en eau. En cas de bris ou de défectuosité, les dégâts provoqués par l'eau s'en trouveront ainsi limités. D'où l'importance de savoir à quel endroit la valve se trouve, insiste Marc-André Gagné. Ensuite, veillez à régler le thermostat à environ 15 degrés Celsius, particulièrement à l'arrivée des périodes de gel et de la période hivernale. Cela permettra d'éviter les problèmes de moisissure, de condensation ou de gel de tuyauterie pouvant provoquer des dommages structurels majeurs par grand froid. Identifier et reconnaître les travaux nécessaires à votre habitation. Si les changements climatiques et les événements météorologiques extrêmes nous poussent à revoir certaines habitudes et à adapter plusieurs façons de faire, c'est aussi vrai pour l'entretien des bâtiments et des habitations. Johanna Ekem rappelle que le Centre Intact d'adaptation au climat a des ressources destinées aux particuliers qui, justement, souhaitent mieux comprendre cette nouvelle réalité et augmenter la résilience de leur domicile. C'est un incubateur d'idées qui propose plusieurs méthodes concrètes, pratiques et économiques pour vous protéger des dégâts d'eau, qu'ils soient structurels ou saisonniers, peu importe le budget dont vous disposez, ajoute la directrice des programmes d'adaptation au changement climatique. C'était « Petits gestes pour prévenir les dégâts d'eau », un texte commandité paru le 28 septembre 2024 dans La Presse.
Hypothèque sur 30 ans. De plus petites mensualités, de plus gros intérêts. Un texte d'Emmanuel Grill, paru le 17 septembre 2024 dans Protégez-vous. En élargissant la possibilité de rembourser un prêt hypothécaire sur 30 ans, le gouvernement fédéral espère alléger les paiements de futurs acheteurs, mais ceux-ci vont payer la note en intérêts. Depuis le 1er août 2024, il était possible pour les personnes acquérant une première propriété nouvellement construite d'étirer l'amortissement de leur prêt hypothécaire assuré sur 30 ans. À partir du 15 décembre, le gouvernement fédéral va élargir cette mesure à tous ceux qui achèteront une première propriété, qu'elle soit neuve ou existante. L'élargissement de la mesure vaudra aussi pour les personnes qui ont déjà acheté une maison et qui mettront la main sur une propriété nouvellement construite. La période d'amortissement maximale, qui avait déjà atteint 35 ans, et même 40 ans avant 2008, a été abaissée à plusieurs reprises, s'établissant à 25 ans depuis juillet 2012. Concrètement, cette prolongation va permettre aux nouveaux propriétaires de souffler un peu en réduisant les versements hypothécaires. Sur un prêt de 450 000 $ à 5 % d'intérêt, par exemple, le paiement mensuel serait de 2617 $ sur 25 ans et de 2401 $ sur 30 ans, selon la calculatrice hypothécaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Une économie bienvenue de 216 $ par mois, soit 2592 $ par année. Le poids des intérêts et du prix des propriétés. Mais attention, car en rallongeant de 5 ans l'amortissement du prêt, on vient aussi alourdir le coût des frais d'intérêt. Pour le même montant d'emprunt de 450 000 $ à 5 %, la part d'intérêt remboursée passe ainsi de 335 166 $ sur 25 ans à 414 578 $ sur 30 ans, soit 79 412 $ de plus. Autrement dit, ce que les acheteurs économisent d'un côté devra être reversé de l'autre, même si à court terme, ils pourront pousser un soupir de soulagement et peut-être au moins réaliser leur projet d'achat. Il reste que le principal obstacle demeure le prix élevé des propriétés qui est alimenté par un marché immobilier sous tension. au Québec, en août dernier. Selon les statistiques de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, APCIC, le prix de vente médian d'une maison unifamiliale était de 443 300 $, de 375 000 $ pour un condo et de 580 000 $ pour un plex de 2 à 5 logements. À cela s'ajoutent des taux d'intérêt qui demeurent élevés malgré les deux précédentes réductions de 0,25% du taux directeur par la Banque du Canada. Des prêts assurés par la SCHL jusqu'à 1,5 million de dollars. Les prix astronomiques des propriétés, en particulier dans les grands centres urbains, ont aussi incité le gouvernement fédéral à augmenter le plafond des prêts hypothécaires assurés. Jusqu'ici, il n'était pas possible de faire assurer un prêt supérieur à 1 million de dollars. À compter du 15 décembre prochain, ce maximum passera à 1,5 million de dollars. Rappelons qu'un prêt doit être assuré par la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL notamment, lorsque la mise de fonds est inférieure à 20 % du prix d'achat. Le pourcentage minimum de mise de fonds est de 5 %. Des mesures réellement avantageuses? Cela suffira-t-il pour donner une bouffée d'oxygène aux acheteurs? Pas selon les experts de la Banque nationale du Canada, BNC, dont le bulletin du 16 septembre signé par ses économistes Stéphane Marion, Darren King et Kyle Dams mentionne que l'impact de ce changement devrait être très limité. Leur analyse indique qu'actuellement, seuls 3,3 % des prêts assurés se situent dans une fourchette de 850 000 $ à 1 million de $, rendant peu probable une hausse immédiate de la demande de logement d'une valeur de 1,5 million de $. Ce train de mesures s'ajoute à d'autres, déjà annoncés dans le budget fédéral de 2024, pour améliorer l'accession à la propriété. Par exemple, les titulaires de prêts hypothécaires assurés pourront changer de prêteur lors de leur renouvellement sans avoir à passer une autre simulation de crise des taux d'intérêt hypothécaires pour se requalifier, le fameux stress test. Ce faisant, ils pourront bénéficier de la concurrence entre les prêteurs hypothécaires et pourront plus facilement choisir l'offre la plus avantageuse pour eux sur le marché. C'était Hypothèque sur 30 ans, de plus petites mensualités, de plus gros intérêts, un texte d'Emmanuel Grill paru le 17 septembre 2024 dans Protégez-vous.